C'est à présent Ridley Scott que Thomas, Nathan et moi allons recevoir au comptoir du cinéma pour son Napoléon, le blockbuster du moment dont tout le monde parle, avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre et Vanessa Kirby, la toujours fabuleuse Vanessa Kirby, dans celui de sa première épouse Joséphine de Beauharnais. Est-il bien nécessaire de résumer ce que tout le monde connaît déjà ? Le film s'ouvre, était-ce une bonne idée, sur la décapitation de Marie-Antoinette devant un peuple parisien hargneux et laid, parmi lequel, impassible, un jeune officier corse qui aspire à un plus grand destin. La Providence, comme il dit, lui donne l'occasion de s'illustrer à Toulon, qu'il reprend aux Britanniques, ce qui sauve la République, puis en massacrant une insurrection royaliste et par divers faits d'armes. Napoléon, car c'était lui, rencontre dans un salon Joséphine, plus âgée que lui de 6 ans, qu'il ne va cesser d'aimer en dépit de son incapacité à avoir des enfants. Je précise que je me suis raclé la gorge parce que Joaquin Phoenix a 14 ans de plus que Vanessa Kirby. Son ascension politique se poursuit jusqu'à ce qu'il se couronne empereur des Français en 1804 pour un règne de 10 ans où, de bataille en bataille, il étend son pouvoir et donne à la guerre son existence pour finalement être défait à Waterloo en 1815. Je reconnais être allé voir ce film à reculons, tellement j'en avais entendu du mal de partout et de tous les côtés, si bien qu'en sortant de ces 2h40, j'étais très, très agréablement surpris. Ce n'est pas un grand film, bien sûr, c'est plutôt un gros film, mais assez bien ficelé et qui marche. J'ai été pris, à l'inverse des deux précédents films qui sont passés au comptoir d'Odin Bouffan et Guy Digan, là. Et je n'ai, voilà, à l'inverse des deux films, je n'ai pas regardé une fois ma montre. Par rapport à Oppenheimer, qui avait à peu près une ambition similaire, c'était formidable. Donc, je défendrai un film qui, à mon sens, le mérite, mais pas forcément pour les raisons pour lesquels il a été tourné, à mon avis. Mais vous, Thomas ?
Eh ben, moi, au début, c'était un peu une papillote de Noël pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas, Ridley Scott, Napoléon, 2h40, ça brillait, c'était doré, voilà, comme la papillote. Mais quand on ouvre l'emballage, ça froisse, on découvre que c'est un peu terne, le chocolat est de mauvaise qualité et les blagues, bon, elles font sourire après une indigestion. Sauf que les blagues des papillotes ont le mérite d'être courtes, contrairement à Napoléon. Non, en bref, pour le coup, je n'ai pas été vraiment pris par l'action. Entre tous ces épisodes historiques que tu mentionnais, Louis, il y a quand même de sacrées ellipses. Ce qui est peut-être pas si mal finalement, puisque comme ça on peut avancer plus rapidement dans le temps, mais qui pose certains problèmes de compréhension parfois. Il y a des fois, j'ai dû m'accrocher pour comprendre qu'on était passé, je sais plus... d'un exil à un autre, tout d'un coup on arrive à l'île d'Elbe, enfin bon, au moins il a le mérite de nous faire avancer vite mais sans parfois nous tenir la main, et contrairement aussi aux scènes de combat qui moi j'ai trouvé étaient d'une grande platitude.
Ah bon? Vas-y, on en reparle.
Non, mais je sais pas, moi j'ai trouvé qu'absolument tout était prévisible dans toutes les scènes de combat, je n'ai absolument pas été époustouflé, les couleurs sont ternes à un point, enfin, ça m'a rappelé l'étalonnage d'Armageddon Time, je sais pas si vous l'avez vu, enfin...
C'était bien Armageddon Time.
Moi j'ai trouvé que les couleurs étaient un peu fades. J'ai l'impression qu'on avait mis une feuille d'automne oui, juste devant, un peu le... couleur marronasse. Et ce qui normalement, enfin moi ça m'a... Ça m'a vraiment déçu parce que je trouvais qu'on... Par exemple, sur la bataille d'Austerlitz, on voit... Enfin, les campagnes napoléoniennes étaient connues parce qu'elles surprenaient. On ne s'attendait pas, en fait, au coup suivant. Là, on voyait où étaient cachées les troupes. On s'attendait à ce que tout d'un coup, un régiment d'infanterie ou une cavalerie se mette à sortir du milieu de nulle part, caché dans une tranchée. Là, on le voyait, on s'y attendait. Enfin, c'était prévu. Et c'est vrai que normalement... Je ne sais pas si vous savez, mais Napoléon est le personnage le plus représenté à l'écran. Et souvent, quand les grands cinéastes, enfin, je mets beaucoup de guillemets là, s'y frottent, par exemple pour Gans, ça a été l'occasion de créer un nouveau système où on mettait des caméras sur des chevaux. Du coup, vraiment, on a l'impression d'être dans la bataille. Il y a Guerre et Paix qui va bientôt ressortir de Sergueï Bondartchouk. Bon, voilà, c'est pas forcément très connu. Mais alors là, il y a des travelling qui passent entre des chevaux et tout. Enfin, normalement, le sujet de Napoléon, c'est fait pour impressionner et jeter du face. On a l'impression d'être au milieu de la bataille. Et là, moi, j'y suis vraiment resté bien à l'extérieur. Bon.
Nathan.
Moi, je suis Bah moi je suis assez d'accord avec, avec toi Thomas. J'ai été assez surpris de ne pas voir en fait un logo Marvel à la fin du film. Pour moi c'est vraiment un Napoléon Marvel. Il n'y a aucune idée de mise en scène, il n'y a pas de scénario, il y a juste des scènes d'action mais qui ne sont pas particulièrement novatrices ou bien ficelées. Alors effectivement c'est les seules séquences où il y a des tentatives d'idées de mise en scène, mais justement ça pose problème. Enfin, je trouve si c'est les seules séquences où Ridley Scott prend plaisir à essayer d'innover au niveau de la mise en scène, enfin, il y a quand même une problématique, je trouve, d'esthétisation de la violence qui, moi, me dérange un peu quand le reste du film est aussi fade. Au niveau du scénario, pareil, c'est, je trouve, hyper didactique, c'est archi-démonstratif. Il y a des scènes où c'est juste du name-dropping pendant 5 minutes. Les effets de mise en scène sont surappuyés. Enfin, moi, je suis vraiment pas du tout un grand fan de Ridley Scott de manière générale. Pour le coup, j'y allais aussi à reculons. Ça m'a un peu conforté dans mon opinion que c'est un grand technicien, parce que je pense que voilà, il y a énormément de travail derrière, énormément d'argent aussi sans doute, mais que c'est pas forcément très intéressant en termes de cinéma, quoi.
Je suis désolé, c'est le troisième film de suite que tu vas voir pour l'émission et qui est pas bien. Pas bien en tout cas pour toi, parce que celui-là. Alors pour le coup, moi, les batailles, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Je trouve que d'accord. C'est là qu'il est le plus personnel, Ridley Scott, et parce qu'en fait, c'est ce qu'il sait le mieux faire. Et moi, Austerlitz, je veux dire, j'aurais pas vu la bande-annonce, je me serais pas attendu. Enfin, moi, j'aurais pu être surpris. Mon annonce te prévient que c'est sur un lac de glace, etc. Parce que moi, je connais plus du tout. L'histoire de Napoléon. Et là, on est impressionné par la technique. Ah ben moi, j'ai été impressionné par la technique à la fois de Scott et celle de Napoléon. Ça rappelle un petit peu la scène d'ouverture de Gladiator, d'ailleurs, dans le froid, etc. C'est pas Maximus, hein, Joaquin Phoenix, mais bon. On a des batailles de diverses factures. On a quelque chose de vachement plus classique avec les scènes de bataille, même courtes, en Russie. Et puis enfin le bazar complet que représente Waterloo, il est privé de Joséphine, ça y est, elle est morte, et donc il apparaît complètement perdu et hermétique aux spectateurs comme à ses généraux, et c'est pas du tout une espèce de dieu supervisant et planificateur hugolien, mais plutôt effectivement il est lui-même un personnage de, enfin comme dans La Chartreuse de Parme, là, le personnage de Fabrice, c'est-à-dire qu'il est vraiment perdu au milieu. Et en tant que spectateur, on l'est aussi. Waterloo va très vite, ça n'a rien d'épique, il pleut. Et je trouve qu'au contraire, on a cette espèce de... Enfin, il montre qu'il peut faire plusieurs batailles différentes qui ont à chaque fois un sens différent et évite justement pour le coup le côté de la peinture de guerre qui fait... pour d'autres genres à travers le film, c'est-à-dire qu'on a des peintures de paysages école, de façon un peu 19e là, quand il remonte la France avec la peinture qui peint les paysans au travail, etc. On a quelques scènes de genre ou la peinture du sacre, et en fait c'est-à-dire que Ridley Scott fait un petit peu les deux, il fait à la fois ses batailles très personnelles, enfin qu'il arrive à faire, et de la peinture d'histoire comme on voit David en train de croquer le sacre de Napoléon lors du sacre de Napoléon précisément, et quelque chose qui est beaucoup plus conventionnel dans sa mise en scène, qui effectivement, outre ces quelques scènes de bataille, n'est pas révolutionnaire.
Mais je te rejoins sur un point, c'est sur le personnage de Napoléon que tu disais complètement perdu au moment de Waterloo et qui mettait plutôt du côté de Fabrice. Et j'ai trouvé du positif quand même dans ce film. Je sais pas si tranché que ça, mais sur l'interprétation de Joaquin Phoenix et la représentation de Napoléon, parce que c'est le portrait de Napoléon est vraiment celui d'un homme extrêmement peu flatteur, grossier, un vrai bourrin on pourrait dire. Donc on le voit, il y a des passages qui le montrent comme un grand stratège, comme un grand planificateur de guerre, mais à aucun moment ce personnage est aimable. On le voit, je dirais que le diable se trouve dans les détails, ou peut-être la brute se trouve dans les détails dans ce film, car il y a des moments où il y a une petite mouche là, qui vole autour de lui, il l'écrase contre sa joue. Les scènes de sexe qui sont vraiment levrettes appuyées, mais genre vraiment qui sont complètement ridicules et pas du tout à son avantage. Et aussi le moment où il revient de l'île d'Elbe, il embrasse le sable tellement il est content de revenir en France. Il continue à marcher et quelques secondes après, Joaquin Phoenix enlève le sable de ses lèvres comme si qu'est-ce que j'ai fait comme idée, c'est vraiment pas du tout stylé. Voilà, au moins il y avait pas cet aspect du personnage historique romantique qu'on pourrait venir aduler. Et j'ai trouvé que ça c'était assez fort. Je sais pas si c'est Ridley Scott ou si c'est plutôt l'interprétation de Joaquin Phoenix, mais le montrer comme une sorte de personnage gras, à aucun moment on est dans l'idéalisation de Napoléon, ni dans son projet guerrier. Enfin, je sais pas. Enfin, Ridley Scott, j'ai l'impression, ne prend pas de parti sur ça, sur l'aspect du mythe de Napoléon, mais du moins dans la représentation du personnage. Enfin, moi, j'étais pas nostalgique à aucun moment.
Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est la représentation en soi, enfin sur ce plan-là, est intéressante. Et par exemple, Joaquin Phoenix. Alors, j'adore Joaquin Phoenix d'habitude. Moi, je me rappelle avoir une conversation avec Louis quelques jours avant d'aller voir le film, où je le défendais corps et âme, tout ça pour que finalement il soit franchement pas exceptionnel dans le film. Par moments, il est carrément insipide, il a l'air de s'emmerder ferme, si ce n'est dans les scènes de combat où il s'adonne à ses meilleurs grognements qu'on entend jusque sur les plans larges. Et les seuls moments où effectivement je le trouve pour le coup assez bon, c'est quand il tente des choses, notamment dans les scènes où Napoléon est le plus tourné en ridicule. Par exemple, il y a le moment où il débarque à Moscou et où il se cache dans son bicorne pour étouffer sa frustration. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Le moment où effectivement il embrasse le sable, je trouve ça assez drôle. Mon souci, c'est que moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait que Ridley Scott prenne pas parti, quoi. Je trouve que quand même, c'est tellement appuyé que, enfin, encore heureux qu'on soit pas dans une idéalisation de Napoléon, mais j'aurais aimé quand même peut-être un petit peu plus de subtilité, un peu un juste milieu, notamment parce que c'est quand même un gros sujet autour du film par rapport à la véracité historique. Il y a énormément de distance prise avec l'histoire. Et en vrai, moi, si je suis très honnête, j'en ai pas grand-chose à foutre que, par exemple, Napoléon n'ait pas vraiment bombardé les pyramides de Khéphren et que dans le film, ce soit le cas. Si c'est justifié, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments où je trouve que c'est assez gratuit et où effectivement ça tombe dans vraiment une caricature assez grossière. Genre les scènes de sexe, moi, elles m'ont vraiment... je les ai trouvées juste ridicules. Et j'imagine que c'est le but, mais pas ridicule dans le bon sens, quoi. Enfin, et puis il prend parti quand même. Enfin, je veux dire, le film se termine sur un écran titre avec le nombre de morts à chaque bataille de Napoléon. C'est bien, ça. Donc ouais, c'est pas mal, mais sauf que ça montre quand même que, enfin, je trouve qu'il y a que il y a pas de juste milieu, quoi. C'est pas du tout nuancé. Il y a aucun moment où il est appréciable, et pourquoi pas, mais en même temps, du coup, moi, ça me bloque un peu dans le film, dans l'adhésion au film. Enfin, je veux dire, j'ai énormément de mal à suivre pendant 2h40 un film dont le personnage principal gifle sa femme parce qu'elle signe trop lentement les papiers du divorce, et aussi un personnage qui est décrit non seulement comme grossier, mais aussi comme assez benêt. Enfin, il y a aucune idée de la grande histoire de Napoléon qui vient directement de lui. L'idée de son coup d'État, c'est pas lui. L'idée de son sacre, c'est pas de lui. À chaque fois, c'est des personnages qui viennent lui souffler à l'oreille. Donc, je trouve que ça manque quand même un peu de subtilité et de nuance là-dedans. Et ouais, c'est assez à l'image du film que je trouve globalement assez lourd, quoi. Dans la relation de Napoléon et Joséphine, il y a très peu de subtilité aussi. Et ça se voit dans la narration qui est vraiment assez décousue. Genre, il y a une scène où ils se rencontrent qui dure 2 minutes, une autre où elle lui soulève sa robe sous le nez dans un dialogue qui est assez ridicule, et puis après la scène suivante, ils se marient. Enfin, ça manque d'âme, en fait, je trouve, globalement.
Ouais, mais alors moi, pour le coup, j'apprécie vraiment le film parce que Napoléon est vraiment complètement démystifié. C'est vraiment effectivement, ce que tu dis, c'est pas du tout le mythe romantique, Thomas. C'est le gars est un pauvre type dans le fond, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de manière, il est ambitieux, c'est un très piètre amant, on en a parlé. Et en même temps, il est montré comme tout le monde dans sa vie de tous les jours. Il roupille quand on lui parle militaire, c'est pas un génie super intelligent. Le coup d'État, effectivement, il est présenté comme un pantin, ça aurait vraiment pu mal tourner. Il est tout terrifié, c'est vraiment le fait du hasard. Donc, il regarde son frère, il invente en direct quelque chose, et c'est très très souligné comme tel, qui d'ailleurs en fait est complètement opposé à la bande-annonce du film, parce que moi, franchement, la bande-annonce laissait craindre un truc hyper agiographique quand même, qui n'est absolument pas le cas. Et Et je trouve ça vraiment bien parce que j'ai pas de gros problèmes avec les flous historiques ou parce que ben j'en ai pas eu avec Gladiator alors qu'il y en a vraiment plein. Et, je reviens sur Gladiator, mais c'est mais je veux dire ouais il y en a plein des flous et je n'ai pas revenu là-dessus parce que bon certes c'est plus lointain et il y a mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre des certains points historiques très précis qui sont généralement passés sous silence sur les films ou les biographies ou les romans autour de Napoléon comme bah, par exemple le fait qu'il ait quand même tiré avec des boulets de canon à bout portant même sur le peuple parisien lors d'une insurrection lors de l'insurrection royaliste et bon il passe sur des trucs enfin que d'autres considéreraient plus importants je veux dire et là où je te rejoins sur le côté manque de nuances c'est la séquence d'ouverture qui pour moi pose vraiment beaucoup de problèmes. Pourquoi cette Marie-Antoinette ? C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ouvrir le film sur la décapitation de Marie-Antoinette. Tout le début peut vraiment être questionné. Pourquoi inscrire cela comme ça ? Pourquoi représenter le peuple parisien de la Révolution comme le fait Jean-Marie Poiret dans Les Visiteurs 3 ? Ouais. Et c'est pas un compliment.
Avec Edith Piaf en fonction.
Oui, déjà, voilà. Et puis ça aussi, pour montrer. Enfin, veut dire, ça montre que Napoléon, quoi, n'a jamais eu d'intérêt pour le peuple. C'est possible, mais enfin. C'est parce que tout le film va dans ce sens-là, mais franchement, moi, la séquence d'ouverture, je m'attendais vraiment au pire pour la suite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Edith Piaf qui chante Ça ira en musique de fond, et t'as plutôt envie de dire effectivement que ça ira pas pour le reste du film. Parce que. Et non, moi je. Et finalement, dès qu'on quitte un peu cette révolution française et ce qui s'est à énormes traits, puisqu'effectivement, t'as le petit carton au début qui dit 1789, et puis juste après, t'as Marie-Antoinette, t'as quand même. 3-4 ans d'écart entre son exécution et la prise de la Bastille. Et, mais le parti. Donc, dès que le film devient. Se focalise un petit peu plus sur son personnage et prend le parti de montrer un peu l'intime, ça m'intéresse. Et c'est quelque chose d'assez neuf de montrer sa relation avec Joséphine, qui montre que la réplique qu'elle lui dit You are nothing without me, c'est le thème du film, à mon avis, effectivement. Le parti pris de Ridley Scott, pour le coup, s'il y en a un, c'est aussi de montrer qu'il est rien sans elle. Dès qu'elle meurt, parce que oui, elle meurt, il n'y arrive plus. Et à Waterloo, on le sent vaciller. C'est-à-dire que voilà, et son retour de l'île d'Elbe, il est bâclé en 10 minutes parce que ben elle est plus là, il a eu son créneau et c'est fini quoi.
Ah oui, je te rejoins totalement sur Louis quand tu parles de l'intime et peut-être ce qui sauve ce film, je trouvais, enfin, sauve à moitié. Non, il ne le sauve pas. Je trouve que c'est plutôt le rendez-vous manqué de ce scénario.
C'est plutôt ça.
Parce que en gros, moi, bon, je l'ai déjà dit, les scènes de bataille ne m'intéressaient absolument pas, mais dès qu'il y avait des moments dans l'intimité, j'étais vraiment content de voir qu'il y avait des passages de la correspondance entre Joséphine et Napoléon qui apparaissaient. Certes, en voix off, c'était peut-être un peu facile, mais au moins, ça donnait une autre dimension. On était plutôt là sur le Napoléon personnage intime, c'est-à-dire un personnage aussi dans lequel il est bené, il est grossier, il ne sait pas, il se comporte, enfin, c'est un... affreux avec les femmes. Oui, mais du coup, en fait, on est sur un Napoléon plutôt, genre du côté de le personnage Napoléon, la personne Napoléon. Et je comprends pas, du coup, pourquoi on part dans ces représentations du peuple qui sont genre ratées complètement. Ils sont tous sourire à chaque fois. Soit ils se font exécuter sur la place publique. Enfin, au moins, il mérite de rappeler que c'est Napoléon a tiré sur la foule. Ensuite, soit ils se font exécuter sur la place publique. Soit ils sont tous sourire derrière le roi. Soit ils sont tous sourire derrière le Napoléon. Enfin, voilà. Le grand peuple qu'on manipule à loisir, enfin c'est globalement ça. Et je comprends pas pourquoi il se perd dans ces représentations-là, au lieu de se focaliser avec ces scènes avec Joséphine, par exemple, où, comme tu disais, le moment où elle dit « You are nothing without me », c'est une séquence, je trouvais, qui pouvait être d'une extrême force, parce que juste avant, il a presque renvoyé Joséphine de chez lui. Elle aurait pu être laissée dans la rue, laissée pour compte. C'est lui qui lui demande de dire « You're nothing without me » au début. Mais finalement, il y a un renversement qui s'opère. C'est elle qui lui fait dire cela. Mais au niveau du montage, j'ai trouvé que c'était filmé piètrement. Je n'ai pas compris comment était arrivé le renversement. J'étais content que le renversement arrive parce que c'était intéressant. Ça montrait une forme de relation de pouvoir entre Joséphine et Napoléon. Mais la façon dont ça a été construit, il n'y a aucune subtilité. On change d'un espace à un autre, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Il n'y a aucun jeu. On dirait qu'en fait, on coche des cases. On dirait qu'en fait, le scénariste a eu une idée, avait vraiment eu une trame qui se tenait vraiment pour le coup. Et je ne sais pas qui c'est qui est passé par les dialogues. Peut-être c'est ou que le montage a été assuré ou je ne sais quoi. Mais on dirait qu'il y a une bonne idée qui s'est perdue en route, en cours de route. Pareil pour le mariage. Je trouvais que cette séquence dans le mariage où il frappe, enfin le divorce plutôt l'inverse là cette fois-ci. Mais le moment du divorce, on l'attend pendant très longtemps ce moment-là parce que enfin on sait qu'il va arriver de manière inéluctable. Le personnage de Joséphine le sait aussi, mais il se fait dans une violence qui est extrême et qui pour le coup n'est pas du tout à l'avantage de Napoléon. Je dis le côté de la caricature, c'est vrai, ce personnage est détestable, mais pour le coup de voir ces scènes de violence, ça le rend encore plus détestable, ça nous donne encore moins envie de l'aimer.
Et c'est surprenant aussi parce que je veux dire, il l'a pas frappé de tout le film ni rien, et ça vient, c'est pas du tout amené, ouais, pour le coup.
Et ça montre sa faiblesse parce qu'en fait, il pense faire un acte de pouvoir avec ce divorce-là, se créer une succession, mais en fait, c'est une catastrophe sur tous les plans, et en fait, juste c'est un personnage qui perd pied, quoi.
Ouais, je suis d'accord sur la scène, par exemple, du « You are nothing without me ». Ça passe à peu près parce que Vanessa Kirby est excellente, comme à son habitude. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas vraiment à sauver le côté... Il y a un côté un peu bizarre, quoi. Il y a un revirement de situation qui est quand même... Enfin, c'est à 180 degrés. Et ça arrive comme un cheveu sur la soupe, sans être amené. Donc je suis d'accord qu'il y a vraiment un problème de montage à ce moment-là. Et alors, surtout le côté, sur la vie intime, la vie privée de Napoléon, quoi, je suis d'accord que c'est finalement l'intérêt, je vais pas dire qu'a le film, mais qu'aurait dû avoir le film. Le souci, c'est que dans ce cas-là, je pense qu'il aurait fallu y aller plus franchement. Et quitte à passer sous silence certains moments historiques, parce que là, on se retrouve avec du coup. Par moments un enchaînement de vignettes de scènes historiquement importantes et connues qui sont mises bout à bout sans aucun liant, juste parce qu'il faut en parler, et qui en plus sont dénuées de tout intérêt esthétique, scénaristique. La scène du sacre, par exemple, est-ce que c'est possible de plus s'ennuyer à une scène qui aurait pu être aussi... Enfin, c'est quand même un tournant. Alors, si tu décides de la montrer, il faut montrer l'importance historique des enjeux qui sont à l'œuvre, quoi. Et là, c'est pas le cas du tout. Mais je suis d'accord que les scènes entre Napoléon et Joséphine fonctionnent plutôt bien. Le fait de vouloir donner autant d'importance à leur relation dans l'histoire et dans la carrière de Napoléon, c'est une bonne idée en soi. Et c'est un des exemples de petits arrangements de Ridley Scott avec l'exactitude historique qui fonctionne bien, je trouve. Par exemple, il fait mourir Joséphine, je crois, un an plus tôt que dans la réalité, de manière à ce qu'elle soit déjà morte pendant la période des 100 jours quand Napoléon revient. Et du coup, ça donne une scène qui, pour le coup, est justifiée et assez belle, la scène où il apprend qu'elle est morte et où il est arrivé trop tard et où il pleure. C'est une des scènes où je trouve que Joaquin Phoenix est vraiment assez bon. Et puis il y a d'autres moments où je trouve que cette distance par rapport à la réalité historique, soit elle sert à rien, soit elle sert juste la diabolisation de Napoléon. Mais encore une fois, il n'aurait pas eu besoin de prendre tant de distance par rapport à l'histoire pour diaboliser Napoléon. Enfin, vous avez parlé du moment où il tire sur la foule. Il y a plein d'autres éléments de l'histoire qui sont passés sous silence et qui auraient pu suffire à le rendre parfaitement antipathique. Mais par exemple, quel est le besoin de le montrer en train de bombarder les pyramides de Khéphren ? Encore une fois, j'en ai rien à faire que ce ne soit pas arrivé dans la vraie vie. Mais si c'est expliqué et justifié dans le film, et si ça sert le propos et l'intrigue dans la fiction. Le problème, c'est que là, même si on était dans une fiction complète, moi, je me pose la question, pourquoi il tire sur les pyramides ? Quel intérêt ? Enfin, je ne sais pas si ça sert juste à... Enfin, c'est juste un procédé de diabolisation très lourd qui consiste à montrer que de toute façon il a aucun respect, c'est juste une grosse brute impulsive ou quoi, ou bien, et alors j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième option, ce qui n'est pas forcément mieux, c'est juste un choix complètement gratuit et arbitraire qui est là juste pour rendre bien à l'écran, pour faire grandiose et spectaculaire, en dépit donc non seulement de véracité historique, mais surtout, et ce qui est plus problématique à mes yeux, de cohérence scénaristique, quoi.
Ouais, c'est vrai. Si je voulais défendre le film, je dirais oui. Ça devait, si... Enfin, je veux dire, si je voulais vraiment être avec Ridley Scott, je dirais qu'il veut souvent enfin, se confronter aussi à la grandeur du passé, qu'il est à présent là lui-même. Enfin, comme cette scène bizarre où il roule une pelle à une momie. Là. Enfin,
oui, oui, il le rate, oui.
Non, il se met à l'oreille d'une momie pour savoir ce qu'elle a. Elle, pour... Bref, c'est un peu étrange comme scène. Mais bref, ouais, donc on sent qu'il y a en lui cette tension de vouloir être un grand homme, et Ridley Scott montre que ce n'en est pas un. Et en fait, moi, ce qui fait que j'ai vraiment finalement beaucoup plus apprécié le film que ce que je pensais, c'est que j'ai vu ça comme une très très grande comédie, en fait. Finalement, Napoléon, c'est un peu le Bernadette des Américains et des Britanniques, parce que Napoléon, ouais, c'est un bouffon, en fait. Il est comique et grotesque, mais sans pour moi que ça ne tombe dans le ridicule déplaisant à regarder. C'est-à-dire que les scènes de cul avec Joséphine, et quand il fait ses trucs, enfin, il fait bruit avec sa bouche là pour l'indiquer que il veut exactement pour indiquer qu'il veut avoir une relation sexuelle avec elle, c'est en fait ça le rabaisse, et ça le ça montre, voilà, c'est un petit corse, un shit bag, comme l'entraînent les Anglais du fort de Toulon, dans une mise en scène qui d'ailleurs rappelle en tout point le château des Français dans Sacré Graal des Monty Python, sauf que là c'est un château britannique en France et non pas un château français en Angleterre. Et d'ailleurs, comme dans les Monty Python, ce sont les Français qui sont dans le château du Graal et qui gagnent, et bien les Anglais gagnent à la fin de Napoléon. Souligne la bonne construction du film. Non, mais cela étant dit, voilà, cette référence implicite ou non, enfin, je veux dire, c'est vraiment très amusant, hein, parce qu'il y a un troupeau de chèvres en bas, enfin, ça rappelle aussi tout le truc avec le délire avec les animaux dans le Sacré Graal. Cette référence, moi, pour moi, fait, enfin, assumée ou non, fait de Napoléon une comédie. C'est avec des personnages assez comiques, comme sa mère, qui rappelle, enfin, les personnages de mère juive interprétée par Marthe Villalonga dans Un éléphant s'attrape énormément, par exemple, Mouchi. Mais c'est-à-dire que ça mobilise, et je vais ici citer la grande référence de tout cours de lettres qui se respecte, à savoir Miss Bakhtine, et je veux dire, non mais blague à part, hein, un renversement un peu carnavalesque du personnage de Napoléon, de la grande histoire. Et ça va pas au bout. Voilà, c'est ça qui, moi, me frustre, c'est que ça ne va pas au bout. C'est dommage, mais à mon avis, il faut aller voir ça comme une comédie. Moi, j'ai ri, mais vraiment beaucoup de fois dans le film, mais comme si c'était volontaire de la part du film. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne comédie comme ça au cinéma. Donc voilà, il faut juste empêcher Ridley Scott de parler de son film. Et après,
c'est ça aussi.
Je t'assure que moi aussi, pendant les 20 premières minutes, j'étais mort de rire, mais j'étais le seul de la salle. mais après, enfin, moi, ça m'a anesthésié au bout d'un moment. Enfin, l'image carton-pâte. Et il y a tellement de longueur, en fait, parce que, enfin, on n'a pas parlé des 2h40 quand même. Il y avait plein de scènes qu'on pouvait s'économiser. Enfin, je suis d'accord que le personnage de la mère aurait pu être intéressant, mais il manquait. Il y avait un grand problème de rythme. Moi, je pense que le problème de montage, c'était vraiment le problème de ce film. En plus, j'ai appris que la version qui sera mise sur Apple TV aura au moins 2 heures de plus.
Ah oui, mais j'ai vu 5 heures.
Ah bah 5 heures, voilà, 3 heures.
Tiens-toi bien, Martin Scorsese.
Ouais, mais alors d'ailleurs, ça m'énerve. Enfin, je veux dire, le film est sorti il y a 4 jours et on apprend déjà qu'en fait, c'est juste une esquisse, et la vraie version, la version longue, elle va sortir sur Apple. Enfin, c'est un peu un manque de respect, je trouve. Enfin, je veux dire, on a tous payé notre place de ciné, tu vois. Enfin, s'il veut pas rentrer dans les carcans des codes et de la longueur des films qui sortent en salle, bah, il sort pas son film en salle. Enfin,
ouais, c'est ça, mais
il fait croire qu'il fait Apocalypse Now et qu'il y a son director Scott qui va arriver.
C'est ça, sauf qu'entre Apocalypse Now, la sortie, et le director Scott, il y a un peu plus que 5 jours. Quoi, donc ça m'énerve un peu. Et puis, et puis sur le plan technique, je trouve qu'il y a l'excès visuel. T'as parlé de carton-pâte, et je trouve que globalement, ça fait assez faux, en fait, comme film. La scène d'introduction, par exemple, donc
ça,
on en a
ça,
parlé.
Ça, c'est vraiment les visiteurs en termes
ouais,
de street
complètement.
Visiteurs
3. Mais même les autres, il y a plein de plans larges où je trouve que les figurants donnent aucune impression de réel. C'est un truc très bizarre que j'ai rarement vu, qui m'a rarement autant. bon, je sais pas comment dire, mais que j'ai jamais autant remarqué, que j'ai jamais autant remarqué dans un film, c'est vraiment dans les scènes d'ensemble, je trouve que les figurants donnent aucune impression de réel. On a l'impression que le cadre a été réfléchi de manière très méthodique, il est organisé avec une grande rigueur et aussi quand même beaucoup d'académisme, mais qui fait pas du tout illusion de vie, et qu'on sent vraiment qu'en dehors du cadre, bah, y a d'autres acteurs et d'autres figurants qui sont en pause café ou quoi. Enfin, je trouve que c'est une chorégraphie bien huilée et classiquement donc assez efficacement orchestrée, mais dont on voit les rouages. Enfin, par exemple, la scène de l'arrestation de Robespierre, elle est complètement ratée, je trouve. Enfin, bah, c'est un autre exemple d'une scène assez importante historiquement et même dans l'intrigue, et qui en fait, bah, on sent à aucun moment l'enjeu de ce qui se passe. La musique, qui pourtant est omniprésente dans le film pour surligner tel ou tel effet ou réplique, ici est complètement absente. Le moment décisif du tir de Robespierre est filmé à moitié hors champ, relégué au second plan au profit de la réaction en mode « Oh non, quel dommage des députés !» Enfin, je trouve que c'est assez symptomatique de cette espèce de dédain de Ridley Scott à l'égard de tous les moments purement historiques, mais personne, encore une fois, ne l'oblige à les filmer. À la limite, il aurait pu faire juste un huis clos entre Napoléon et Joséphine, et ça aurait été limite plus réussi, je pense.
Ça aurait été assez bien dans une vibe un peu le souper, là. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Claude Rich et Claude Brasseur, entre Fouché et Talleyrand, bah justement après la fin de la chute de Napoléon, là c'est pas mal. Mais pour revenir sur le côté carton-pâte, alors autant je trouve la lumière dégueulasse, ce côté jaune qui est d'ailleurs un peu la même que dans Les Trois Mousquetaires, qui est un film que j'ai vraiment bien aimé, mais je veux dire, s'il y avait un truc à reprendre, ce serait effectivement ce filtre jaune là. Mais il y a des scènes qui sont effectivement très étranges, très très artificielles, mais qui sont très réussies à mon sens. C'est-à-dire que par exemple, Moscou vide, c'est du pur CGI, enfin c'est que des effets spéciaux, on dirait on dirait un Gardien de la Galaxie, un Marvel cosmique, quand il crée de toutes pièces une planète à l'ordinateur. Mais en même temps, ces places immenses et vides, bah ça en jette un peu, ça fait un peu Kiriko, c'est-à-dire que en même temps, voilà, tu sens que c'est plus un moment métaphorique qu'autre chose pour lui, un point de bascule, un point de non-retour, qui fait que ben ça m'a moins gêné que dans d'autres films historiques qui essayent de reconstituer autre chose. Après, moi quand même dans les j'ai pas plusieurs points de critique du film, et parmi lesquels le fait il essaye de refaire un Barry Lyndon sans que ce soit réussi, quoi. C'est-à-dire que on a même dans la musique, à un moment il y a un pastiche du trio de Schubert qui a dans Barry Lyndon. Vanessa Kirby ressemble un peu à Marissa Berenson qui joue Lady Lyndon. Il y a aussi cette idée grandeur et chute d'un ambitieux, mais si ça a le côté épopée dégradée, ça n'a pas la force narrative du récit picaresque de Kubrick. La fin, par contre, je trouve qu'elle est très réussie dans la fin de Napoléon. Cette dernière image de lui qui tombe comme une masse, comme s'il était une statue, et puis ce côté Napoléon au milieu de cactus, c'est une image qu'on n'a pas trop vue, en fait, mine de rien. Elle est assez réussie. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut garder. Après, si on garde la comparaison avec Barry Lyndon, autant les dialogues étaient excellents, c'était extrêmement bien écrit, bon, bien illuminé, on va pas en parler et tout, mais là, ils sont vraiment très faibles. Joaquin Phoenix, alors moi, j'ai pas trouvé formidable, mais effectivement, je suis pas déjà un grand amateur au départ. Mais là, il marmonne en continu, il marmonne des phrases aussi puissantes que I'm not built like other men, ou bien des trucs dignes de. Ou bien des répliques dignes de puceau, moi, MDR, on ne l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps quand elle lui demande s'il a eu des maîtresses. Il dit juste évidemment, sans trop s'attarder, alors que la vie privée de sa femme était quand même étalée dans les journaux. C'est pas vraiment pour les dialogues que je vais retenir ce film, ça c'est sûr, ni pour des personnages qui sont assez peu marquants tous en fait. Il y en a qui sont bons, je trouve que le Talleyrand est très bien, Paul Rice. Ouais, je te vois, si tu t'en souviens, c'est qui t'a pas marqué. Qui vous a pas marqué. Mais le jeu d'acteur, effectivement, est généralement loin d'être bon. Et même Vanessa Kirby, que j'aime énormément dans The Crown ou dans L'ombre de Staline, ici, elle est pas transcendante non plus.
Mais au niveau des personnages, moi, j'ai l'impression que Nathan, tu dis du name dropping, c'est exactement ça. J'ai l'impression que les personnages étaient pour le coup une forme de caution historique.
Ouais,
c'est-à-dire, en fait, j'ai lu quelques livres d'histoire, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnages que Napoléon qui tournaient autour de lui, et voilà, on les met. Bon, voilà, on a l'impression de faire toutes les rues française de n'importe quelle ville quand entend.
Mais et les stations de métro avec les batailles.
Exactement. Mais à part ça, c'est vrai que je ne comprends pas en fait pourquoi il y a autant de personnages quand de l'autre côté, il essaye de prendre des libertés historiques. Ouais. Moi, au contraire, je suis même peut-être content qu'ils prennent des libertés historiques parfois. Enfin, si c'est pour la pyramide, c'est vrai, c'est grossier, c'est un personnage grossier. Moi, j'en ai un peu rien à faire que ce soit fidèle à l'histoire ou pas, mais en fait, on dirait qu'il choisit pas. C'est ça, quand je disais qu'il manquait de parti pris, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'on est là pour faire la galerie de personnages, pour donner une forme d'esprit d'époque, alors que le personnage de Napoléon est tout sauf 18e siècle. On dirait qu'il a perdu ses idéaux, on dirait qu'il a jamais fait la révolution, en fait. Enfin, on aurait pu le parachuter dans n'importe quel siècle, ça fonctionne. Bon, mise à part, je ne comprends pas en fait, parce que cette histoire, elle aurait pu se passer un peu à n'importe quel moment. On dirait que c'est juste un cadre qu'on habite, mais de manière ultra vide. Et pour revenir, vide, aussi vide que Moscou en fait, d'un certain côté. Mais c'est vrai que cet aspect de Moscou, pour revenir dessus, Moscou vide, je trouvais que c'était vraiment magnifique comme idée, comme plan, cette avancée dans la cathédrale. Enfin, on sait pas tellement ce qui se passe, est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il a pas gagné, enfin est-ce qu'il est là. Mais en fait, sur l'image, juste, j'avais envie d'augmenter la luminosité, seulement juste parce que j'avais l'impression de rien y voir, par contre.
Non mais c'est vrai qu'il y a, je reviens sur ce que tu disais avant, il y a vraiment un entre-deux, je trouve, dans la démarche du film, que je comprends pas vraiment. Et encore une fois, je trouve qu'il y a, oui bah il y a, ça fait pas, enfin j'y crois pas quoi. Je trouve que ça prend pas vraiment. Alors c'est les Vive la France criés avec l'accent anglais n'aident pas forcément. le fait que alors
c'est drôle.
Alors que Phoenix a un accent américain aussi.
Oui non mais enfin, et puis bon, tu l'as dit tout à l'heure, Joaquin Phoenix a quoi, 12 ans de plus, 14 ans de plus que Vanessa Kirby, alors qu'il est censé avoir 6 ans de moins. Donc déjà ça, cette habitude hollywoodienne commence à devenir exaspérante. Mais au-delà de ça, au début il est censé avoir 25 ans quoi, et il en a 49, Joaquin Phoenix. Donc je trouve qu'il y a un problème. Je sais pas si c'était le bon choix d'acteur quoi, au-delà de ça, dès le départ. Pas vraiment convaincant, je trouve, de manière générale quoi.
Ouais. Moi j'ai un dernier mot sur ce film. Pour moi c'est un gros bémol et même pas fait exprès, c'est la musique. C'est-à-dire que la musique, le compositeur, c'est Martin Phipps qui compose la musique des saisons 3 à 6 de The Crown, ce qui est musique que je veux saluer parce qu'elle est vraiment très bien. Ouais. Et d'autres drames historiques de la BBC comme Guerre et Paix ou Victoria, bon, je ne les ai pas vus, mais disons qu'en fait, les musiques sont beaucoup moins marquantes pour les avoir un petit peu écoutées. Et en fait, il fait dans sa musique de Napoléon, de Ridley Scott, un téléfilm BBC, sauf que là, ce n'est pas du tout adapté. La musique, elle est vraiment en décalage des fois avec ce qu'il y a à l'image ou ce qu'il y a dans les dialogues ou dans les jeux d'acteurs, pour ce qu'ils valent. Sans parler, bordel, des polyphonies corses. Moi, ça m'a sorti du film.
Ah oui, moi, la musique était presque juste illustrative. Hein. Mmh. Enfin, c'est... Oui, c'est ça. Et même, d'ailleurs, les téléfilms de la BBC sont souvent très bons. Orgueil et préjugés.
Et ben voilà, c'est parfait de finir Napoléon de Ridley Scott sur Orgueil et Préjugés. Napoléon, ouais, donc c'est toujours en salle, et pour le coup, si ça doit se voir, ça doit se voir au cinéma à mon avis, hein, plutôt que dans la version de 5 heures de Apple TV+. En attendant, la mini-série de Spielberg pour HBO sur le scénario du Napoléon de Kubrick, ou la restauration du film d'Abel Gance dont tu parlais, de 1927, par Netflix et la Cinémathèque française pour... insérer random date de retard.
1929, pardon.
Oui, non, mais je veux dire la sortie de la restauration.
2024.
C'est bon ?
Oui, c'est okay, bon, normalement.
Mais Guerre et Paix aussi de Bondarchuk vaut vraiment le détour.
Très bien. Ouais. Eh bien, voilà, c'est un conseil en plus. Et avant de conclure l'émission, vos critiques, précisément, vous donneront leurs conseils. Et on commence avec Eva.
Je vous conseillerais la série Split, qui a été créée et réalisée par Iris Bray. Elle est sortie le 24 novembre sur France TV. C'est une mini-série de 5 épisodes de 18 minutes, donc ça ne dure pas longtemps, ça fait une heure et demie en tout. Et donc le pitch, c'est Anna, une cascadeuse de 30 ans, qui a un copain depuis un moment. Ils essayent d'avoir un enfant ensemble. Mais elle tombe amoureuse de l'actrice qu'elle double sur le tournage d'un film. Alors, bon, comme La Vénus d'Argent, je ne l'ai pas vue, mais je pense que ça va être intéressant parce que Iris Bress est une critique journaliste et autrice féministe qui a beaucoup réfléchi sur la représentation des genres à l'écran. Elle a écrit Sex and the Series, un livre qui analyse les sexualités féminines. Elle a aussi réfléchi au female gaze avec son livre, son essai Le regard féminin, une révolution à l'écran. Donc je pense que là, passer de la théorie à la pratique en prenant la place de réalisatrice, ça peut donner quelque chose de bien. Donc voilà.
Merci beaucoup, le conseil de Nathan.
Alors moi, je vous conseillerais Qu'est-ce que les nuages, qui est un court-métrage de Pasolini, que j'ai vu en cours à la fac la semaine dernière. Voilà, je rentabilise mes cours. Voilà. Et que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé incroyable. C'est issu du film à sketch Caprice à l'italienne qui est sorti en 1968. Et c'est une allégorie du métier de comédien dans une mise en abîme où des acteurs représentent Othello. Mais où ces acteurs qui sont bel et bien animés, ils sont interprétés par notamment Toto et Ninetto Davoli, mais ce sont des marionnettes, donc ils sont tenus par des fils, et une fois le spectacle terminé, donc ils sont voués à rejoindre les ordures. Voilà, donc c'est du Pasolini pur jus, c'est baroque, c'est plein de symboles, en veux-tu, en voilà. Et c'est extrêmement intéressant sur le rapport au théâtre, et plus globalement à la fiction et au jeu. Et aussi, puisque le film rend ses notions indissociables à la vie et à la peur de la mort, notamment jusqu'à une scène de fin qui est vraiment bouleversante, entre des dialogues poétiques et surréalistes très beaux, et une musique magnifique que j'écoute en boucle depuis, et je vais me risquer à dire son titre, en italien, Sosa sonde le nuvole. Voilà. Donc ça dure une vingtaine de minutes et vous pouvez le trouver facilement, je crois, libre d'accès sur Internet.
Voilà. Formidable, merci beaucoup. Le conseil de Thomas.
Alors moi, j'aimerais que cette semaine, on aille en enfer. Car après le paradis et le purgatoire, Bertrand Mandico nous emmène, lui, en enfer. Conan, son film sorti mercredi dernier, parachève un cycle initié avec son premier long métrage Les Garçons Sauvages, qui a procuré bien des traumatismes sous LSD pour ceux qui l'ont vu à sa sortie, j'en fais partie, et qui avait été prolongé il y a 2 ans avec le western kitsch post-apocalyptique au féminin After Blue Paradis Sale. Voilà le contexte. Mais cette fois, Conan est une femme, plusieurs femmes, pas de Schwarzenegger, et chacune vient tuer son passé, et Mandico tresse avec ce personnage de bande dessinée une fresque fantasmée de la barbarie à travers les époques. Le cinéaste reste fidèle à son style dans un mélange de série B, gore et kitsch à paillettes, mais le réalisateur, et j'ai été extrêmement surpris, se renouvelle, et c'était vraiment inattendu. Car avec l'envoûtante Elina Lovenzon, qui apparaît dans tous ses films, et son accent venu des limbes des rêves les plus enfouis, elle disparaît cette fois-ci sous un masque de chien. On ne voit pas son visage, et pourtant cela reste son plus beau rôle, avec une mobilité corporelle inattendue et une variété de registres. Moi, j'ai été tout simplement fasciné par ce personnage de chien Rainer, nommé en hommage au réalisateur Fassbinder, cette fois-ci. Alors du coup, avant que votre double du futur arrive pour vous poignarder et vous remplacer comme Conan, foncez vite en salle avant que Conan n'en disparaisse, parce qu'il ne va pas rester longtemps, je pense.
Merci beaucoup, Thomas. Et enfin, mon conseil à moi, c'est une série aussi. Vous aurez remarqué que dehors, il fait froid. Mais fait-il aussi froid qu'à Mout, dans le Jura, ou dans le Doubs même plus précisément, qui bénéficie d'un microclimat très particulier et où on est en dessous de zéro à partir du 15 août, véridique. Et où le personnage de David Rousseau, Jean-Paul Rouve, écrivain de polar en quête d'inspiration, revient après la mort de sa mère dans une quête en partie identitaire. C'est le moment que choisit un serial killer, un tueur en série pour Odile, pour commencer des meurtres aux mises en scène raffinées puisqu'elles imitent des œuvres d'art. Et la gendarmerie est mise sur le coup avec l'adjudant Louveteau, mais patine d'autant plus qu'elle a dans les pattes donc ce David Rousseau, trop heureux de pouvoir mener l'enquête lui-même après en avoir écrit beaucoup. C'est un croisement réussi entre les séries policières suédoises ou danoises, le cinéma américain de Hitchcock et de Lynch et l'absurde d'un Zai 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 Zai, la BD de Fab Caro adaptée au cinéma l'an passé, déjà avec Jean-Paul Rouve, un film d'ailleurs injustement décrié et passé sous silence l'année dernière. Donc Polar Park, c'est disponible gratuitement sur arte.tv, il ne faut absolument pas hésiter. Voilà. Tous ces conseils très divers, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les quatre, Eva, Nathan, Lucie et Thomas, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast pour retrouver Wim Wenders avec Perfect Days. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma! et vive Transit.